Voilà, donc c'est le cours de liturgie, enfin liturgie ou théologie, la liturgie, enfin c'est surtout là un peu le sens de ce que nous faisons qui me conduit. Et donc, comme il a été dit, ce sont des exposés qui sont proposés pour les étudiants de propédeutique, enfin, genre catéchèse supérieure, je sais pas. Et donc, je m'astreins, disons, à dire des choses les plus simples possibles, mais quelquefois, effectivement, un peu simplistes. Comme j'ai déjà dit, je suis simplet, comme dit l'autre dans Blanche-Neige et ses nains. Il y a un personnage comme ça qui est trop sympathique. Et ben c'est un gros effort en fait pour moi. Ça va vous paraître vraiment de la fausse modestie, fausse humilité, etc. Mais voilà, c'est un gros effort pour moi d'essayer des choses. Rase-mode par le point de départ de tout, par quoi est-ce qu'on commence, qu'est-ce qui est la base, qu'est-ce qui est premier pour moi en fait, principalement, parce que égoïstement, au fond, je parle quand même de ce qui m'intéresse, de ce qui me préoccupe. Et donc il y a eu deux exposés déjà, et donc comme ça, un peu simpliste. Enfin, s'il n'y a pas eu de révolte, donc je continue. Je n'ai pas été chassé, congédié de cette fonction. Bon. Donc je continue. Et en fait, ce qui m'intéresse, avant d'aborder d'autres sujets qui avaient été annoncés, par exemple l'étude des offices, la structure des vêpres, enfin la structure, si vous voulez, un petit peu technique des offices de notre Église et la divine liturgie elle-même, continuer un peu à creuser sur l'origine concrète, vivante, réelle, c'était presque biologique en fait de notre culte et de notre prière, de notre liturgie qui est si belle, si grande, si... Je pense pas qu'on puisse contester, si vous voulez, que la célébration de la divine liturgie dans l'église des Pères, que ce soit la liturgie selon saint Chrysostome ou la liturgie selon saint Basile, c'est le haut de gamme, si vous voulez, de ce que l'être humain peut arriver à réaliser, et même en le réalisant, il est totalement dépassé par ce qu'il fait. Mais cette hauteur et l'élévation extraordinaire de la prière chrétienne, qui se voit non seulement dans l'office de la divine liturgie, mais dans les grands offices, un très très bel office qui est l'office de matine, par exemple, ben cette élévation, elle est quand même le fruit de toute une action du Saint-Esprit dans la communauté chrétienne depuis des siècles, enfin en tout cas dans les premiers siècles, mais même après. L'Esprit Saint n'a jamais cessé d'inspirer des prières nouvelles. Donc c'est vrai que souvent les prières sont datées des premiers siècles, le 4e, 5e, 6e siècle de notre Église, mais il y a des compositions contemporaines enfin, qui montrent l'action permanente du Saint-Esprit dans l'Église. Donc c'est vrai que c'est une ramification continuelle, une arborescence liturgique continuelle qui vient du fait que l'être humain aime Dieu, aime le Christ et aime... c'est parce qu'il y a de l'amour dans notre cœur pour Dieu que des prières nous sont inspirées. C'est pas pour rallonger la liturgie systématiquement, si vous voulez. Parce qu'à la limite, on pourrait au contraire faire plus court pour faire autre chose. Dans la période de solde, par exemple, les gens sont contents de partir plus tôt. Mais non, on reste à l'église et on voudrait quelquefois que ce soit plus long parce qu'on n'a pas dit à Dieu. On n'a pas dit à Dieu tout ce qu'on a à lui dire et tout l'amour qu'on a à lui dire. C'est ça. Et c'est cette insatisfaction du cœur humain qui est l'origine, en quelque sorte, de la créativité liturgique à travers les siècles. C'est que l'être humain ne trouve pas les mots qui correspondent à l'amour insatiable qu'il a pour Dieu, pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour la création tout entière. Et ça, il y a ça chez nous, les êtres humains, ce qui est très très consolant. Ça veut dire que l'être humain, même si on en parle souvent comme d'une créature qui se comporte avec barbarie, de manière assez infâme, souvent, c'est vrai que c'est quelquefois seulement, lorsque ce sont encore des hommes qui font ça, bon, eh bien tout de même, par la vie liturgique, il y a le témoignage que l'être humain est absolument sublime, absolument grand devant Dieu, et qu'il porte en lui-même une capacité extraordinaire d'aimer plus qu'il n'aime, et c'est ça, et inlassablement et à l'infini. Mais au départ, si vous voulez, au départ de cet arbre récent, aux racines de cet arbre immense de notre tradition liturgique et ecclésiale, il se trouve en fait un vécu très 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 profond, peut-être plus simple, peut-être plus spontané, existentiel, comme j'aime bien dire, et c'est de cela que j'ai envie de m'approcher, parce que quand on nous parle, j'ai fait l'année dernière dans un cours un peu plus spécialisé, on nous parle des origines de la liturgie chrétienne, c'est vrai qu'on nous dit que ça vient de la synagogue, que ça vient du temple juif, que ça vient des offices juifs familiaux, c'est vrai, parce que nos racines sont des racines juives, nous sommes des juifs spirituels, nous sommes l'Israël de Dieu quand même. Hein. On dit aussi qu'une bonne partie de l'origine du culte chrétien, ça vient des religions à mystère chez les Grecs, dans la culture hellénistique. Bon, ceci est parfaitement intéressant et vrai, mais moi je vous dis, mais en deçà, derrière ça, avant toutes ces choses si vraies, si techniques, si, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, moi je pense qu'il y a, enfin, c'est peut-être une opinion à moi, je ne sais pas, je pense qu'il y a l'événement dont l'évangile est le témoin. Donc c'est ce caractère événementiel, les faits attestés par le Saint-Évangile, que ce soit l'un ou l'autre des textes du Saint-Évangile, Matthieu, Marc, Luc ou Jean, c'est un ensemble d'affirmations, d'attestations, d'événements qui... Alors, j'allais dire d'événements qui ont eu lieu. Je m'arrête tout de suite parce que justement, ce que j'ai l'intention de dire, c'est qu'il ne faut pas se presser de parler de tout cela au passé. C'est quelque chose qui est assez important. La transformation du réel en passé, c'est une catastrophe en fait. Je voyais ça parce que nous avons, ces jours-ci, été célébrer un office des défunts, ensemble, en province. Et au fond, on s'est rendu compte qu'entre le moment où le défunt s'est endormi dans sa chambre et le moment où on procède à l'inhumation, la situation a tendance à se transformer en passé. C'est très triste. C'est au fond le plus triste. Et ça se manifeste dans le langage. On commence à parler de la personne à la troisième personne du singulier, il ou elle. On oublie ou on n'ose plus, on ne pense pas lui dire tu, et on commence à employer les verbes qui concernent cette personne au passé. Il était ceci, elle était cela, il était tellement sympa, il était tellement... Quand ce passé, oui. Et donc ça c'est assez important, je pense que la réalité de la liturgie de l'Église, si vous voulez, est une réalité qui est une réalité présente. Et que c'est ça qui fait la difficulté de certaines discussions entre les chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens pour qui, en fait, tout ceci n'est que du passé, dont on se rappelle un peu, d'une manière assez symbolique, mais au fond, il ne se passe rien. Et puis, il y a des chrétiens pour qui tout ceci est à la fois du passé, si vous voulez, parce qu'on assume quand même le temps chronologique, mais est un présent continuellement ressuscité, ranimé, rappelé de la mort à la vie. C'est-à-dire qu'en fait, le phénomène de la résurrection que nous confessons, c'est pas seulement la résurrection, je dirais, individuelle de Jésus-Christ, mais c'est le phénomène continuel du passage de la mort à la vie et du passé au présent, de tout ce qui est dit dans l'Évangile. De tout ce qui est dit dans l'Évangile, tout ce qui se passe dans l'Évangile, tout ce qui se passe dans l'Évangile ne s'est pas seulement passé, mais se passe. Ça n'a pas seulement eu lieu, mais a lieu. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors c'est pour ça que j'ai appelé ça pour ce soir source. Ça peut être très sérieux. Il y a vraiment beaucoup plus sérieux que le contenu. Source néo-testamentaire des offices liturgiques. Alors ça, quand on entend ça, on dit ça va être super. Hein. Mais en fait, ce que je veux dire simplement, c'est que le culte chrétien actualise tout simplement les événements rapportés dans l'Évangile et les autres textes néo-testamentaires. Nous avons fait une expérience récemment, il y a 10 jours, je crois, ou 15 jours maintenant, qui a été de célébrer la divine liturgie selon saint Jean Chrysostome dans une chambre d'hôpital, dans un service palliatif, dans un grand hôpital de France. Et ça, c'est une expérience tout à fait extraordinaire, parce que on retrouve la liturgie comme prière, ben, sans la simplifier, sans du tout l'appauvrir ou l'amputer de quoi que ce soit, ça je vous promets, en la disant vraiment complètement, en disant toutes les prières à haute voix, etc., sauf les endroits où je me suis trompé, mais enfin bon. Mais on retrouve la liturgie comme événement communautaire, comme présent communautaire. Bah, voilà, un groupe de personnes qui, dans une chambre près d'une personne donnée comme pour mourant par les médecins, voilà, ce groupe de personnes, d'amis, réunis par l'amour mutuel, l'amour fraternel, l'amour du Christ, prient et célèbrent et offrent le sacrifice non sanglant pour le salut du monde. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pas dans une cathédrale, pas dans une église peinte avec des superbes fresques comme nous avons, pas dans rien de tout ça, vous voyez. Une chambre d'hôpital où on a installé la table de prothèse sur une table, l'autel sur une autre table, on a été chercher de l'eau chaude pour le zéon dans la salle de bain qui est juste à côté, où on a, la seule chose qu'on n'a pas pu faire vraiment, c'est de faire brûler de l'encens. Et ça me manque beaucoup de ne pas avoir fait brûler de l'encens, mais c'était pas possible à cause de l'état du malade qui n'aurait pas supporté la fumée et par égard aussi pour tout le système de sécurité de l'hôpital qui aurait pu être affecté par les effluves de l'encens. Bon, donc c'est la seule chose vraiment qu'on n'a pas faite et qui fait que la liturgie n'a pas été quand même totalement une liturgie orthodoxe. Une liturgie sans encens, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut revenir à des choses très, à une expérience très simple, très fraternelle, très communautaire, très amicale, du culte chrétien, vous voyez. Certains d'entre vous ont certainement l'expérience d'avoir célébré un office de vêpres un soir au bord de la mer, sur la plage, face au soleil couchant sur la mer, sans rien d'autre que peut-être la mémoire, c'est en rappeler, puisqu'on nous savons quand même beaucoup de choses par cœur, c'est en rappeler, il y en a qui connaissaient une partie du psaume cosmique par cœur, ça c'est quand même très bien, ça vous c'est long, tous connaissaient par cœur Lumière joyeuse, tous connaissaient par cœur le cantique de Simeon, tous connaissaient les prières initiales par cœur quand même, bon, et on a pu dire un office de vers comme ça, pieds nus sur la plage, face au soleil, et ce sont des moments très 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 importants, et c'est quand même le culte de l'Église, mais il n'est pas réduit. Mais je dirais, c'est le culte de l'Église retrouvé. On retrouve dans des moments comme ça la simplicité jaillissante en fait de notre culte et de notre prière. Et c'est nos offices. Bien sûr, on nous parle bien sûr de saint Jean Chrysostome, de saint Basile, des très grandes personnes, les plus grands esprits de leur temps, mais nos offices n'ont pas été créés par ces personnes-là. Ils ont été utilisés par ces personnes-là, mis au point par ces personnes-là, canonisés par ces personnes-là. À une époque, on sait très bien que la plupart des prières étaient improvisées de manière traditionnelle. Donc, ils ont à un moment fixé, oui, canonisé les choses. Mais comme toujours dans l'Église des Pères, le canon suit le réel, hein, il ne le précède pas. On ne canonise pas des saints pour les rendre saints. On canonise des saints pour attester qu'ils le sont. Mais c'est des saints avant qu'on les canonise, vous voyez. Et la plupart, donc la vie canonique dans notre Église consiste donc à fixer de manière normative une réalité. Elle suit toujours la réalité, elle ne la précède pas. Et donc ici, il en est de même pour la liturgie. Le culte a une forme effectivement reconnue, si vous voulez, admise, encore qu'elle soit très 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 souple dès cette forme, mais cette forme suit l'événement de prière et suit l'événement du vécu. Alors, quelle bibliographie vous donner? Mais l'évangile et les actes des apôtres, oui. Les épîtres de saint Paul, oui. L'épître aux Hébreux, ça devient déjà beaucoup plus élaboré. Parce que dans l'épître aux Hébreux, on nous explique qu'il s'agit du sacrifice de l'ancienne alliance. Il y a toute une théologie très très élaborée du culte chrétien dans sa relation avec l'héritage juif. En fait, c'est remarquable, si vous voulez. Mais voilà, on est déjà en train de construire une admirable une méditation religieuse. Mais le plus simple, c'est effectivement de lire l'Évangile, les actes des apôtres, certains épîtres de l'apôtre Paul qui rapportent ce qui lui a été dit, ce qui a été vécu par la première communauté. Et puis, j'ai pas d'autres bibliographies à vous signaler, sauf toujours les mêmes, c'est-à-dire toujours la lecture de Père Alexandre Schmemann, parce que je pense que c'est lui, justement, la grande intelligence de Père Alexandre, c'est d'avoir toujours eu la conscience de l'origine existentielle, en quelque sorte, du culte chrétien. C'est très, 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 très important chez lui, ça. Pour la vie du monde, il en parle de manière très nette. Il dit, par exemple, qu'est-ce qui est important pour l'homme? C'est de manger, c'est de boire. Et il parle de ça pour arriver à l'Eucharistie, tout simplement. Oui. Bon, donc, les textes évangéliques, hein, et je dirais ecclésiaux, c'est-à-dire se rapportant à la vie de la communauté chrétienne après l'Ascension et après la Pentecôte, hein, c'est datable, hein, du point de vue historique, hein. Et bien ces textes, donc de la première génération de baptisés, je fais exprès de ne pas employer le mot chrétien parce qu'il n'était pas employé, saint Paul ne l'emploie jamais, par exemple. Saint Paul dit les croyants, les baptisés, mais le mot chrétien n'a pas été employé. Donc la première génération de baptisés, voilà, ça c'était quand même des baptisés, c'était les baptisés qui formaient cette communauté, cette fraternité de prière de la communauté qu'on nous décrit dans les actes des apôtres. Bon, c'est ça qui atteste, ce sont ces textes qui attestent des événements et des faits. Et alors, ça veut dire que l'Église, par rapport à ces faits, son activité consiste essentiellement à faire mémoire. Alors ça, c'est une expression qui est très très difficile à manier parce qu'elle est la source de beaucoup de contradictions, d'interprétations différentes. Mais on va simplifier, si vous voulez. Pour l'un, faire mémoire, ça veut dire simplement se souvenir d'un événement passé. Par exemple, on fait mémoire des défunts, nous rappelons, nous réunissons autour d'une table et nous rappelons notre cher disparu, on l'aimait beaucoup, il était très intéressant, il faisait ceci, on a beaucoup de souvenirs ensemble, des bons souvenirs, quelques mauvais souvenirs, mais plutôt des bons souvenirs. Vraiment. Donc on se rappelle de lui, mais comme je le disais tout à l'heure, on se rappelle de lui comme d'une personne passée, au fond, définitivement révolue. C'est terrible de penser que ça peut être ça dans notre discours à propos des défunts. On parle de quelqu'un dont l'existence est totalement révolue, pour ne pas dire anéantie, pour ne pas dire on dit nos chers disparus. On a des expressions comme ça qui sont très très intéressantes. Bon, c'est donc une première façon de faire mémoire. Voilà, on se rappelle. Bon. Et puis un autre sens de l'expression qui est très très différent et qui effectivement n'est même pas français. Je pense qu'on ne trouverait pas dans le Petit Robert. Je n'ai pas regardé, mais c'était peut-être même pas dans l'acception française du terme. Mais c'est l'acception orthodoxe, théologique, chrétienne du terme dont je veux parler maintenant. Faire mémoire, c'est actualiser au présent. Si nous parlons de ce même défunt, eh bien, nous parlons de lui, il est parmi nous. Et ceci est l'expérience première des chrétiens avec le Christ. Les premiers chrétiens, ils ont appris du Saint-Esprit, c'est très très important ça, parce que c'est l'action du Saint-Esprit qui se manifeste par là. Les premiers chrétiens ont appris du Saint-Esprit que le Christ était présent parmi eux. Quand on dit dans la Sainte Liturgie, on le dit tout fort maintenant, c'est bien, le Christ est au milieu de nous, on le dit avec un certain enthousiasme, disons, parmi nous, au milieu de nous, bon, il y a différentes façons de le dire, cette affirmation-là est sensationnelle, et c'est cette affirmation-là qui rend compte de l'expression « faire mémoire ». Faire mémoire, c'est dire la personne à laquelle nous pensons est au milieu de nous. Donc la différence est là. Donc il y a effectivement dans l'activité de prière à la communauté chrétienne une activité qui consiste à rendre présent, pas représenter, hein, le mot représenter est très très ambigu en français, une représentation, c'est une figuration, c'est une copie et qui n'a pas de rapport avec la réalité, ça remplace la réalité, donc ce n'est pas de représentation, mais plutôt une présentation, je ne sais pas comment dire, ou une manière de rendre présent, appeler. Il y a des prières qui le disent, ça, on dit à Dieu, rends-toi présent par ton Saint-Esprit, maintenant, parmi nous, etc. La communauté évoque la présence du Christ, hein, ou l'atteste, parce qu'elle sait que le Christ a dit ça, à la fin de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, il dit, voici que je suis présent parmi vous, ou avec vous, jusqu'à la fin des temps. Donc le Christ a quand même dit ça, et la communauté l'atteste, et la communauté, bah, on va dire, elle l'expérimente aussi, et elle l'expérimente dans son culte. Donc ça c'est le sens, si vous voulez, très, le sens fort de l'expression faire mémoire, hein. Faire mémoire. Pour ça on a beaucoup, c'était faisant mémoire de, je sais pas, par exemple de l'oblation eucharistique, ou de notre Père qui a été donné par le Christ à ses disciples, et souvent on emploie cette expression-là. Il faut faire extrêmement attention. Moi, j'ai certains amis qui se pensent chrétiens, par ailleurs, pour qui l'expression n'a pas du tout ce sens-là, vous voyez. C'est purement, comme on dit, un mémorial, mais dans le sens faible du mot. Je vous assure, je ne veux pas peut-être m'engager trop sur cette voie, parce que nous sommes dans une activité publique, hein, disons, voilà. Mais nous savons très bien ça, qu'il y a certains chrétiens pour qui c'est simplement un rappel du passé, d'un événement passé, et donc il y a, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'Eucharistie, il n'y a rien, il n'y a pas de... Alors ça, c'est, je pense que c'est lié essentiellement à l'action du Saint-Esprit, ce qui veut dire qu'il y a des communautés qui se pensent chrétiennes et dans lesquelles l'Esprit-Saint n'est pas. Parce que si l'Esprit-Saint était parmi eux, il ne dirait pas que c'est du passé, il dirait que c'est du présent. C'est un peu dur de dire ça, mais vous savez, est-ce que l'activité du Saint-Esprit est réelle, ou est-ce qu'elle est mythique, légendaire, métaphorique, est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose quand l'Esprit-Saint agit? Et nous pensons, enfin, je pense, peut-être, nous sommes quand même plusieurs, je pense, à le croire, que c'est l'action du Saint-Esprit qui, justement, opère ce miracle de la mémoire, ce miracle de la célébration, ce qui est surtout réel dans la célébration eucharistique et dans la consécration des dons. C'est dans cette consécration des dons que le miracle du Saint-Esprit qui rend présent, qui rend au présent, qui rend actuel, qui actualise l'histoire rapportée par l'Évangile, c'est dans ce moment-là que c'est le plus spectaculaire. Bon, et là je ne veux pas faire de polémique parce que je pourrais... Là aussi, faire allusion à des discussions que j'ai eues avec certains de mes amis qui se pensent chrétiens, vraiment, sincèrement, et qui m'ont dit, mais pour nous, là, il n'y a pas de consécration. On n'emploie absolument pas ce nom-là. Rien n'est consacré, rien du tout. Il n'y a pas de sanctification, rien. On refuse absolument ce terme-là, oui. Bon, donc, ça veut dire qu'on peut dire qu'il y a quand même dans l'usage des mots et dans la foi et la conception et l'expérience qu'on a aussi de la prière et du culte chrétien, il peut y avoir quand même des aspects très très spécifiques, très forts, auxquels nous tenons, et qui font partie aussi de notre héritage, de notre identité chrétienne orthodoxe en particulier, oui. Voilà, donc c'est, on pourrait parler ici de reviviscence. Alors là, j'étais dans le petit Robert, je vous promets, et dans le petit Robert, et le mot existe. Reviviscence, c'est un beau mot, je ne vais pas vous l'épeler, je ne vais pas vous faire injure, c'est vrai qu'il a une orthographe... délicate, hein, c'est, bon, vous verrez. Et, c'est un très beau mot latin qui veut dire le fait de revivre. Renaissance, résurrection. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La résurrection est la réalité principale de l'Église et du culte chrétien. Parce que la résurrection est justement cela. Que ce qui est raconté dans l'Évangile, ce qui est rapporté par l'Évangile, les histoires sont souvent des histoires, souvent très narratives. Le côté narratif de l'Évangile est ressuscité à cette heure, en ce jour, à ce moment, maintenant. Mais c'est pour ça que dans la lecture de l'Évangile, par exemple, la lecture publique de l'Évangile, il est prescrit que quand le diacre ou le prêtre lit de manière solennelle la liturgie de l'Évangile, il doit commencer par « en ce temps-là, Jésus dit à ses disciples », par exemple. Mais même cette expression-là, c'est le professeur Mircea Eliade qui a expliqué ça justement, pour nous, quand nous disons « en ce temps-là », ça ne se rapporte pas au passé. Mircea Eliade a très bien expliqué ça, il faut lire enfin un petit peu. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est écrit dans Mircea Eliade, en particulier cette distinction sacrée et profane. Je pense qu'elle ne s'adapte pas à la réalité de l'Église. Bon, mais ça, c'est une chose. Mais il y a des commentaires exceptionnels. Et de ça, sur ceci, il est très, très intéressant. Il explique bien que l'expression « en ce temps-là », ça veut dire « dans le temps absolu, dans le présent absolu du réel, Jésus dit à ses disciples ». C'est-à-dire, en fait, « maintenant ». In illo tempore, comme disait les latins, un vreme archea, comme on dit en roumain, ou ce que vous voulez, kero et kino, comme disait grec, ça veut dire maintenant. Et dire en grec, keros, c'est pas chronos. Keros, c'est le moment. Le moment grand M, où quelque chose advient, où il se passe quelque chose. Il arrive, l'événement. C'est pour ça que je dis que la base de la liturgie, c'est l'événement. Et je dois parler du caractère événementiel de la divine liturgie. Et j'insiste là-dessus pour sauver la liturgie, notre liturgie, du ritualisme, du formalisme et de tout ce qui la défigure, en fait, vous voyez. Et je dis ça aussi pourquoi, parce que je vais être un peu indiscret, mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de Monseigneur Joseph. Oh. Vous allez me dire, ah, ça n'a aucun rapport, laisse-nous tranquille avec tes problèmes de personne. Excusez-moi, je tiens à mentionner le fait que je parle aujourd'hui le jour de la naissance d'une personne qui a un charisme liturgique exceptionnel. Comme il n'écoute pas les cours, ça n'a aucune importance. Je le dis pour les autres. Monseigneur Joseph a un charisme liturgique exceptionnel, c'est-à-dire qu'il a une façon d'agir liturgiquement, de célébrer, si vous voulez, c'est-à-dire de fonctionner liturgiquement, qui donne toujours l'impression qu'il invente, hein, qu'il improvise, que la liturgie est en train de surgir en ce moment. Là, ce grand moment qu'on est en train de vivre. Et il a une espèce d'inspiration de Zachary Xanam qui a vraiment un grand charisme liturgique. Il a la capacité de faire des choix, quelquefois liturgiques, quand c'est nécessaire. Il a la capacité d'intervenir avec beaucoup de délicatesse quand c'est nécessaire. Mais tout ceci est absolument vivant. C'est absolument vivant. Il regarde bien les livres de temps en temps, évidemment, pour se rappeler s'il avait besoin. Mais, non, alors ça, pour moi, c'est très très important de voir, d'avoir l'expérience. Mais je ne sais pas que chez cette personne-là, j'ai connu ça chez d'autres. C'est très fréquent chez les hiérarches, chez les prêtres, chez les fidèles orthodoxes, ce sens-là, cette espèce d'instinct liturgique, hein, qui fait qu'on a à peine besoin d'un livre pour savoir ce qu'on a à faire à ce moment-là. Donc le caractère événementiel, d'accord, qui va avec le caractère pneumatologique aussi du culte chrétien. Donc, ça veut dire que notre patrimoine liturgique, alors je fais attention au mot, le mot liturgie, quand on parle de la liturgie eucharistique, on dit toujours la divine liturgie, pour qu'on sache qu'on parle de liturgie selon Saint Jean Chrysostome, ou selon Saint Basile, ou selon Saint Grégoire, ou selon Saint Germain de Paris, ou selon Saint Marc, enfin bon, c'est ce qu'on appelle la divine liturgie, c'est la liturgie eucharistique. Autrement, quand on parle de liturgie au sens général, bon, mais il faut le préciser, mais il faut être quand même clair. C'est pour ça que je préfère employer l'expression patrimoine liturgique pour ne pas comprendre que je ne parle que de la liturgie eucharistique. Le patrimoine liturgique, c'est-à-dire tous les aspects du culte chrétien. Eh bien, ce patrimoine liturgique, nous pouvons le considérer comme reproduction, je me méfie du terme, parce que reproduction, ça peut être simplement un copier-coller, une photocopie, une pâle reproduction du réel, donc attention à ce mot-là, Plus intéressant, c'est peut-être de dire réitération, c'est-à-dire on refait. Vous avez, ceux qui ont suivi les cours de première année et les autres années, j'avais expliqué ce qu'on entend par rite. Le mot rite, une des étymologies du mot rite vient de cela, de réitérer. On refait, mais pas dans le sens de recommencer, pas le sens dans le sens simplement de répéter, j'allais dire bêtement. La liturgie n'est pas une répétition, elle est une réitération, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que elle n'est même pas un recommencement, elle est un commencement. Encore et encore et encore un commencement. C'est pour ça que nous avons ce mot-là dans la liturgie, de eti ke eti, yare shiare, paki paki, miram gos, c'est très intéressant. C'est encore et encore, commençons. Commençons. Pas recommençons. Vous voyez? Et ça, c'est très 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 important. La prière liturgique est un miracle de commencement. La naissance d'un événement spirituel divino-humain. Naissance, donc, réitération et actualisation, comme je viens de dire, c'est-à-dire rendre présent par le Saint-Esprit tous ceux dont il a été question. Je vais après ça prendre des exemples. Et alors, donc ça il se présente quelque chose qui est important ici, c'est que ça veut dire que la liturgie, quand on dit qu'elle représente, qu'elle actualise, on veut bien dire qu'elle n'est pas une représentation figurée des scènes de la vie du Christ, par exemple. Elle n'est pas une allégorie. Et ça, le Père Schmemann a beaucoup insisté là-dessus, quand on parle de symbolisme liturgique, par exemple. Bien, ça ne veut pas dire qu'il y ait des éléments allégoriques qui représentent, mais ça veut dire que le symbole, c'est le être là des choses. Donc là aussi, notre vocabulaire est très très piégé, parce que je vous assure, beaucoup de mes amis, j'ai des amis un peu partout, grâce à Dieu, très, très différents les uns des autres, et là, pour beaucoup d'entre eux, le mot symbole désigne le signe qu'on met pour quelque chose qui n'est pas là. Un signe qui remplace une réalité. Alors que dans le sens religieux et liturgique, le symbole, c'est la rencontre du visible et de l'invisible dans un être là de l'événement. Bon, donc nous parlons, voilà de quoi nous parlons. Et donc, il faut se méfier beaucoup des interprétations allégoriques de la liturgie. Je vais y revenir un petit peu tout à l'heure. Et je dis qu'il faut s'en méfier avec tout le respect que j'ai pour certains des pères de l'Église, des grandes personnes. On trouve, ça c'est l'influence la culture de l'époque, je pense. On trouve dans certains textes de Saint-Maxime le Confesseur, dans certains textes même de Nicolas Cabasilat, des interprétations allégoriques. Oui, mais elles sont, ça, le Père Schmemann a été très sévère avec ça. Il montre bien que c'est en fait un phénomène de décadence, philosophiquement parlant, quand on perd le sens de la présence réelle, en fond, de l'événement liturgique, on commence à chercher une explication allégorique aux rites et aux gestes qui sont faits. Mais il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de cela. L'action liturgique n'est pas une allégorie abstraite, en quelque sorte, hein, une figuration symbolique de ce dont il est question. Et ça, c'est de l'intellectualisme. Nous parlons d'autre chose. Nous parlons du fait que la liturgie est le rendu présent de l'événement. C'est un petit peu autre chose. Mais je vais en parler parce qu'on y reviendra. Donc, qu'est-ce que c'est que cette actualisation? J'ai parlé de ça avec les enfants, parce que c'est très important. Les enfants sont souvent assez disponibles, disons, parce qu'ils sont, enfin, sauf à partir d'un certain moment de l'école, en principe, ils ne sont pas encore trop abîmés, je dirais, par l'intellectualisme, par la transformation de tout en raison, en philosophie, la conceptualisation de tout. Ils sont souvent, grâce à Dieu, encore un petit peu en deçà de cette déformation, au fond. Vous voyez ? Et même le mot compréhension, pour eux, ne veut pas encore totalement dire transformation en concept et en idée de la réalité. Il ne veut pas encore dire réduction de la réalité à la pensée, réduction de la réalité au... C'est ça le problème, si vous voulez. C'est que on peut réduire l'événement évangélique, on peut le réduire à une compréhension, mais c'est une réduction à un formulé intellectuel satisfaisant, si vous voulez, mais qui n'est que la carcasse, je ne sais pas, le fantôme, je ne sais pas quoi, du réel, hein. Un croquis, c'est une espèce de croquis intellectuel du réel. Donc ici, non, nous parlons d'un peu autre chose. Alors justement, avec les enfants, parce qu'on est dans certains groupes, on leur fait une sorte d'initiation à l'icône, mais en partant justement du Saint-Évangile. Et donc du coup, ben, ils lisent l'Évangile, ce qui ne ferait pas beaucoup autrement. Mais ce que on leur disait l'autre jour, c'est qu'en fait, il s'agit de quelque chose qui est arrivé. La multiplication des pains, le Christ qui marche sur les eaux, la tempête apaisée. Enfin, vous savez, les enfants aiment bien les événements très spectaculaires comme ça, très très bande dessinée. Justement, parce qu'ils sont sensibles à l'événement, mais c'est étonnant quand même certains épisodes de l'Évangile qui ne sont pas des paraboles. La tempête apaisée, ce n'est pas une parabole. C'est un récit vrai, avec des gens qui ont été témoins, des gens dont on connaît les noms des gens qui y étaient. Le Christ qui a marché sur les eaux, c'est pas une parabole. Donc c'est extraordinaire. C'est ça l'événement. Et on leur dit, leur vision, que l'événement, il existe. Et après ça, il est transmis, rapporté, raconté, exprimé, partagé. Ah, oui, les gens qui ont vu le Christ marcher sur les eaux, ils ont envie quand même de le raconter à tout le monde. Comment le dire? Est-ce que c'est racontable? C'est à peine racontable. Moi, écoutez, je viens de passer donc, beaucoup de temps dans ces offices de funérailles, etc. Mais ce n'est pas racontable. Bien sûr, je peux vous le raconter. On a fait ceci, on a fait cela après. On a ouvert le cercueil, on l'a fermé. On l'a ouvert, on l'a fermé. Très bien. Mais... ce n'est pas comment pour moi qui ai vécu quelque chose puis-je être porteur d'une restitution? Comment restituer? C'est ça le vrai problème de la liturgie. Comment restituer l'événement vécu de la naissance à Bethléem, de la résurrection de Lazare, de l'institution de l'Eucharistie? Comment restituer ce vécu au présent? Mais ça paraît impossible, vous voyez. Et c'est vrai que souvent on le reste utile, comme je l'ai dit, sous forme de passé, sous forme d'allégorie, ou éventuellement sous forme de moralisme, ou de philosophie religieuse, sous forme de n'importe quoi, en fait. J'aime vraiment crucifié à cette question-là, comment le restituer. Et en fait, on se rend compte que c'est le culte lui-même qui est le moment où l'événement revit. Qu'il n'y a que le culte, qu'il n'y a que la liturgie pour se retrouver au moment grand M, où la chose est, où la chose existe. Dans le culte, on ne raconte pas. Éventuellement, on dit la parole évangélique, mais on fait. Le culte, le mot liturgie, ça veut très bien, ça veut dire une action. Ça ne veut pas dire une narration, ça ne veut pas dire une explication, ça ne veut pas dire un prêchi-prêcha. Ça veut rien dire de tout ça. Ça veut dire une action. On le fait. C'est pour ça que le Christ a dit, faites ceci. Il n'a pas dit, écoutez, vous n'oubliez pas les amis, n'oubliez pas de raconter à tout le monde ce qu'on a fait ce soir. C'était très important. Au contraire, bien souvent dans l'évangile, mais plus d'une fois dans l'évangile, il dit aux gens, ne raconte pas ça chez toi. Ne le dis à personne. C'est un sens, ça. On voit le Christ lutter. Contre la transformation du réel en discours. C'est vraiment intéressant, parce que lui, ce qu'il propose, c'est la vie. Même quand il parle, il propose une parole de vie, une parole vivante, une parole vie, une parole à vivre. Pas une parole à parler, une parole à vivre. Donc, ne le dites à personne, ne le dites pas. Alors on dit, voilà, c'est le secret, c'est l'ésotérisme chrétien. Mais c'est pas ça, mais... Bon, si vous voulez, c'est l'ésotérisme, mais c'est pas exactement ça. L'ésotérisme, c'est encore une manière extrêmement intellectuelle de voir les choses. Il ne s'agit pas de ça. C'est que le Christ préserve la vie. Il propose la vie. Il propose la connaissance comme vie. Il propose le sens comme vie. Il propose la vie comme vie, justement. Justement, il propose même la mort comme vie. C'est extraordinaire, ça. Donc, Oui, c'est ça. Par exemple, je disais aux enfants, je reviens à ce que je disais. Donc, il y a l'événement, et puis, on essaie de le restituer. Alors, il y a différents modes de restitution. Effectivement, on peut le raconter. Il y a quand même des, être mesuré dans ce qu'on dit. Il y a quand même des passages de l'évangile qui sont des narrations. Et il y a certainement eu une pratique dans la communauté chrétienne, une pratique narrative. Par exemple, les femmes reviennent du tombeau, elles racontent aux apôtres ce qu'elles ont vu, qui ne les croient pas d'ailleurs. Ce qui veut dire que la narration n'est pas en elle-même suffisante. Il faut qu'ils voient et qu'ils touchent. Je parlais hier avec le gardien de la résidence où nous avons l'église. Et ce gardien, c'est un monsieur très, très intelligent, il est à la retraite maintenant, d'origine portugaise. Et il me dit, on parlait comme ça en allant vers le parking, prendre la voiture. Il me dit, mais, vous savez, pour parler de l'eau chaude, il faut se plonger dans l'eau. Il faut être dans l'eau chaude pour dire qu'elle est chaude, ou mettre la main dans l'eau chaude. Autrement, vous dites qu'elle est chaude, mais ça correspond à rien. Et ça m'a beaucoup frappé, ce qu'il a dit, mais c'est exactement de quoi il s'agit, c'est-à-dire, c'est le vécu qui te permet de dire que l'eau est chaude ou froide, d'ailleurs, parce que tu dis ce que tu veux. Mais la température de l'eau, elle ne se mesure pas seulement avec un thermomètre extérieur, vous voyez. Celui qui regarde le thermomètre, il n'a aucune connaissance de la température de l'eau. Mais celui qui s'y plonge, ou qui s'y émerge, ou qui est baptisé en particulier, connaît par expérience quelle est cette eau. C'est pour ça que celui qui ne vit pas dans l'Église ne peut pas être chrétien. Quand on dit il n'y a pas de salut hors de l'Église, alors ça horrible quand on dit ça, c'est très 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 mal compris. Les sectaires pire que les autres, etc. Mais c'est pas ça qu'on veut dire. C'est que si tu ne vis pas, tu n'es pas baigné dans le bain, tu n'es pas dans le bain comme on dit vulgairement, mais c'est-à-dire si tu n'es pas immergé, ce que veut dire baptême quand même, eh bien tu ne connaîtras rien de ce qui s'y passe. Vous savez, c'est un peu... Regardez, imaginez qu'il y a eu dans votre famille une fête, un mariage, par exemple. Alors vous êtes invité à ce mariage, et puis, au dernier moment, pour une raison ou pour une autre, parce que le chien était malade, ou parce que vous avez crevé un pneu, ou je ne sais pas quelle raison, ou parce que vous avez perdu vos clés, ou vous avez raté votre train, vous ne pouvez pas aller à ce mariage. Et ben, vous en êtes fort triste, évidemment, parce que pensez au mariage, pensez aux bonnes choses qu'il y a eu à manger après, à tous les amis de la famille que vous auriez revus, enfin, vous faisiez une fête de ce mariage, et vous n'avez pas pu y aller. Et après ça, vous téléphonez aux amis, alors c'était comment ce mariage, raconte, envoie-moi des photos, je sais pas quoi. Tu n'y étais pas. Tu ne l'as pas vécu, tu ne sauras jamais. C'est terrible, hein. Tu ne sauras jamais. Parce que tu n'y étais pas. Vous savez que par exemple quelqu'un décède dans une famille, quand on peut être près de la personne qui décède au moment où elle rend son souffle, ben voilà, j'ai vécu ça, oui. Si on me le raconte, ce sera par exemple la même chose quand même. Oui. Donc il y a une part de narration, mais qui est quand même très pauvre, qui instaure un décalage entre l'événement et l'auditeur. Ah, c'est juste qu'on apprend. J'ai appris par la radio telle chose. Ah, j'ai vu à la télévision telle chose qu'on décapitait des enfants dans tel pays. Oui, bon. Mais ce qui y était, c'est autre chose, vous voyez. Effrayant. Et c'est vrai que c'est un problème de notre civilisation aussi, c'est qu'elle transforme un peu tout en image, tout est un peu transformé en représentation, et le réel perd de son réel, en quelque sorte. Donc elle a dit ça aux enfants, ça peut être rapporté. Une autre façon de transmettre l'événement, c'est l'icône. C'est l'icône, incontestablement. L'icône est née de cela, du besoin de restituer l'événement. C'est pour ça que l'icône, la plupart du temps, se rapporte à un événement attesté par l'Évangile lui-même, quelque chose qui a eu lieu, je parle par le baptême du Christ, l'icône du baptême du Christ, si vous voulez, tout l'effort de la tradition iconographique est de restituer dans cette image l'événement. Et de restituer aussi pour celui qui venait à cette image, toute la surprise, le bouleversement, l'étonnement, l'impression de miracle, le saisissement religieux qui fait partie de l'expérience du baptême du Christ pour ceux et les quelques-uns qui y étaient. On ne sait pas très bien combien ils ont pu être. Or, vous savez très bien que beaucoup de nos icônes ne jouent pas ce rôle-là. Ça ne va pas faire plaisir aux iconographes qui peuvent écouter ces cours, mais je suis désolé de dire, une bonne partie des icônes qui sont en circulation, justement, n'arrivent pas à jouer ce rôle-là. Quelquefois, ce sont des pâles reproductions, des pâles copies. Elles n'ont rien à en dire, elles sont parfaites, sont canoniques, tout ce que vous voulez, mais elles ne nous donnent pas le goût de la vie. Elles ne font pas communier à l'événement. Et ça, c'est... Et puis certaines icônes nous font communier au réel. Et il y a des icônes qu'on ne regarde pas sans larmes, tellement le présent est présent. Et ça arrive quand même, des vraies icônes. Ça existe. Et puis donc, il y a aussi le témoignage des saints. Mais pas les saints qui racontent. Pas seulement, bien sûr qu'il y a ça, le témoignage des saints qui étaient, qui ont vu, qui attestent. Ils étaient deux, Pierre, Jacques et Jean ont vu, par exemple, la transfiguration, ils y étaient, ils l'attestent. Mais c'est pas ça complètement le témoignage des saints. C'est quand le saint, pour prendre cet exemple-là, devient lui-même transfiguré. Quand il vit lui-même la transfiguration par le Saint-Esprit. Alors là, il atteste vraiment la transformation de l'être humain en événement. Comment est-ce qu'on pourrait... L'événementialisation de l'être humain. Quand l'être humain actualise dans sa propre vie l'expérience de ce qui est dit. Vous voyez. Ça, c'est l'expérience des martyrs. Enfin, là, on vient de décapiter... Non, pas décapiter. D'égorger, comme on fait pour les moutons. On vient d'égorger 21 personnes hier, avant-hier, le 18, parce qu'ils sont chrétiens. Bon. Mais le martyr, si vous voulez, il actualise dans sa propre vie le mystère de l'agneau. C'est pour ça qu'on vénère les martyrs, les saints martyrs. Les saints victorieux martyrs. Donc il y a ce témoignage des saints. Et puis donc, les prières, ce qu'on appelle les tropaires, qui sont des petites compositions poétiques, ce qu'on appelle le propre liturgique, c'est-à-dire la succession des fêtes et des événements intégrés dans la célébration dimanche après dimanche ou jour après jour, hein, le propre liturgique ou le propre de la liturgie. Si on distingue ce qui est propre, c'est ce qui est particulier, ce qui est très événementiel justement, de ce qui est général. Donc on parle de l'ordinaire de la liturgie et on parle du propre de la liturgie. Donc l'ordinaire, c'est ce qui est général, ce qui ne change pas au fond, et le propre, c'est ce qui est justement événementiel, on va dire, et qui est donc mobile de semaine en semaine et de jour en jour. Qu'est-ce qui actualise encore? Eh bien la parole inspirée, quand quelqu'un prêche ou parle ou témoigne de son expérience spirituelle, c'est extraordinaire quand même. Quelqu'un qui parle de Christ pour l'avoir rencontré, pour l'avoir vécu, comme nous avons dit l'autre jour dans un autre cours, et ça aussi, la parole rend présent, la parole des apôtres, la parole des femmes, des hommes qui sont dans l'Église depuis 2000 ans, rend présente la réalité. C'est très 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 important, la parole du baptisé, la parole du baptisé, voilà. Et donc, l'événement même du culte, comme je l'ai dit depuis le début, en sachant que dans le culte, très souvent, dans les tropaires en particulier, on entend le mot « aujourd'hui ». Par exemple, un exemple que vous retrouvez facilement, qui est le condacion de la nativité. « Aujourd'hui, la Vierge met au monde l'Éternel. Aujourd'hui. » C'est beaucoup des tropaires de la résurrection aussi. En ce jour, ce jour est le commencement du salut. Enfin, je pourrais vous donner des centaines d'exemples que vous avez déjà entendu vous-même. Mais donc, c'est très intéressant. Ça veut dire que les poètes qui ont écrit ces prières ont cette conscience-là, justement, que c'est aujourd'hui, et le temps grammatical qui va être employé, c'est le présent. C'est le présent, oui. Très 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 important. On vit au présent. Alors, ça c'était donc un peu des généralités, je vous en parle, mais je pense nécessaire parce que je voudrais être convaincant quand même, être crédible. Bon. Ensuite, nous avons des exemples, et je trouve dans les textes de l'évangile des Actes des Apôtres, pardon, et des Épîtres, je trouve plein d'exemples de cela. Je fais exprès d'employer le moins possible l'expression Nouveau Testament ou Néo-Testamentaire parce que c'est pas tout à fait vrai. Vous savez, il n'y a qu'une alliance. Il n'y a qu'une alliance depuis l'origine jusqu'à nous. Mais on va dire qu'il y a des phases ou des chapitres dans l'alliance. Et si on parle de Nouveau Testament sur de nouvelles alliances, je pense qu'il faut savoir qu'on nous entendons par là l'alliance renouvelée. et non pas une alliance nouvelle qui abolirait les autres. Faire extrêmement attention à ça. Moi, j'essaie de lutter un peu tout le temps contre la conception de substitution qui traîne un peu quand même encore. Donc il s'agit de... Alors, mais bon, on emploie le Nouveau Testament quand même, mais si je l'emploie, je me dis dans quel sens je l'emploie. C'est-à-dire l'alliance renouvelée, ou toujours nouvelle, disons, mais enfin renouvelée par le Christ lui-même, par celui qui en est le partenaire principal. Ça serait important, c'est important. Bon, alors, je vois les exemples que je trouve, à mon avis, se rapportent à trois domaines différents. Je passe, j'ai préparé un petit peu trop encore, comme d'habitude. D'abord, il y a des exemples qui se rapportent, justement, enfin, qui correspondent, si vous voulez, à des faits rapportés qu'on trouve dans l'Évangile, qu'on trouve, enfin, surtout dans l'Évangile d'ailleurs, mais dans les Épîtres de Saint Paul et dans les Actes des Apôtres, bah oui, bien sûr, tout de même. Des faits rapportés qui se traduisent par une manifestation culturelle. Je vais trouver les exemples. Ensuite, il y a d'autres exemples qui sont des textes liturgiques eux-mêmes, très anciens, des hymnes et des prières transmises, parce que hymne est féminin, éventuellement, des hymnes et des prières transmises par les écrits néo-testamentaires. Je vais y revenir après. Et puis, troisième groupe d'exemples, il y a d'exemples d'événements, hein, je tiens bien mon sujet, hein, il y a d'événements qui se transforment en culte, d'événements qui donnent matière, si je peux dire, à liturgie, qui donne matière à prière, qui donne matière justement à cette reviviscence par le Saint-Esprit. Le troisième groupe, ce sont les injonctions. Les injonctions. Alors, je reprends ça un petit peu. Par exemple, je regarde l'heure, bon. On a une demi-heure, ouais. Donc, les faits rapportés qui se traduisent par une manifestation culturelle. Mais j'en trouve beaucoup. J'ai trouvé beaucoup de bonheur à relire assez rapidement, bien sûr, mais quand même à reparcourir avec attention les quatre versions du Saint-Évangile. C'est vrai que c'est magnifique de faire ça, ce parcours, même à grande vitesse, comme ça, c'est assez étonnant, et on s'aperçoit que vraiment Saint-Marc et Saint-Matthieu, ils sont bien copains tous les deux, Saint-Luc a sa petite personnalité, et que Saint-Jean, c'est tout à fait autre chose. Par exemple, c'est juste entre nous pour vous montrer, dans l'évangile de Saint-Jean, je crois qu'il n'y a pas un seul cas d'exorcisme. Tous les exemples de guérison des possédés sont dans Saint-Marc, Saint-Matthieu et Saint-Luc. Il y a des différences vraiment assez importantes. Mais, bon, les faits rapportés, on les trouve quand même à peu près partout. Un fait rapporté qui est très, très extraordinaire, eh bien, c'est tout le mystère de la Nativité. Tout le mystère de la Nativité. Ce fait rapporté, qui est rapporté dans Saint-Matthieu, Saint-Luc aussi, bon, en fait, est la source d'une activité liturgique très très importante. Qu'est-ce qu'on trouve? Je ne vais pas vous le relire, c'est un petit peu long, vous connaissez peut-être de mémoire. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des personnes qui se déplacent, on trouve des personnes qui sont attirées par la lumière, comme on dit, on trouve des personnes qui ont vraiment une préparation personnelle très importante, une quête personnelle très importante, et on trouve ces mêmes personnes qui sont dans une activité d'adoration. Mais oui, le mystère de Noël, c'est pas un mystère naïf, enfantin, comme ce qu'on en a fait souvent, si vous voulez. C'est essentiellement le mystère de la religion. C'est je sais pas qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme exemple de religiosité profonde de l'être humain, et où effectivement le Christ Dieu est au centre de cette démarche religieuse, où on se prosterne, où on fait des offrandes, et où on a également des hymnes, puisque toute la part des anges, surtout dans Luc 2, 14, la participation des anges à la célébration, justement, est très important. Donc on a ici dans ce texte de l'Évangile qu'on peut reconstituer en le prenant tel qu'il est dans les différentes versions, on arrive à avoir une histoire à peu près complète, disons, et on va trouver tous ces composants-là, disons, je veux dire, toutes les personnes qui sont concélébrantes. C'est un moment de concélébration commune. Les anges, sais très bien, les anges, les bergers, les mages, la mère de Dieu elle-même à sa place, les saints figurés par Saint Joseph, et au centre de tout, comme tête, et comme motif, et comme enjeu, et comme interlocuteur, partenaire, de ces célébrations par excellence, comme Seigneur de cette célébration, le Christ lui-même, et qui n'est pas sur l'icône un petit bébé de nu, joufflu et grassouillet, mais qui est le Seigneur de gloire, dont les vêtements irradient la lumière et de la transfiguration et de la résurrection. Donc la conscience de l'Église dans la tradition iconographique en particulier se manifeste bien de cette façon-là. Elle voit très bien que c'est un moment liturgique. Mais ce moment liturgique, il a lieu où ? Pas dans une église, pas dans un temple, pas dans une maison, dans rien de construit par les hommes, dans la nature, dans une grotte, dans la nature en fait. Nature, c'est-à-dire d'une façon au fond très peu religieuse, si on entend par religion ce qui est codifié pour avoir lieu dans des espaces tout à fait organisés. C'est quelque chose de sauvage, je ne sais pas comment vous dire, quelque chose de spontané, quelque chose un événement spirituel, un événement religieux, un événement liturgique, un événement de célébration absolument, sauvage. Parce qu'il échappe absolument à toute prévision humaine, à toute organisation. C'est étonnant quand même l'Évangile commence par un exemple de célébration, de liturgie aussi spontané, aussi libre, au fond aussi improvisé. Mais pour nous, improvisé, c'est-à-dire guidé par l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est l'appel de l'Esprit. C'est l'appel de l'Esprit qui fait que tout le monde se met en route, tout le monde se met en mouvement, tout le monde se mobilise liturgiquement pour concélébrer l'événement. Oui. Et c'est, pour moi, vraiment, l'évangile de nativité, c'est vraiment le type liturgique numéro un. Enfin, ça vous surprend peut-être, mais bon, c'est peut-être que j'allais parler de l'Eucharistie, on va en parler, bien sûr. Mais ça, ce moment-là, parce que ça dépend comment on le voit, mais on voit très bien que le Christ, il est à la fois dans un berceau, si vous voulez, comme enfant, il est sur un autel en tant que victime, et il est dans un cercueil en tant que celui qui va ressusciter. Enfin, il faut vraiment beaucoup regarder l'icône. L'icône, si je peux dire, l'icône fait parler la parole, l'icône fait parler le texte. Eh bien, mais en même temps, elle est absolument fidèle. C'est un des cas typiques, si vous voulez, de où l'iconographie, elle n'illustre pas. Hein. L'icône n'est pas là pour illustrer la parole. Excusez-moi, ça va être clair aussi. C'est pas une illustration de l'Évangile. L'icône traduit le même événement dans un autre langage. On va dire ça. C'est le même événement indicible, intransmissible, intraduisible. qui est finalement quand même dit, traduit et transmis par l'icône, par la chose écrite ou par le témoignage du vivant de ce qui y était. Donc l'adoration des mages et des anges. S'il vous plaît, rappelez-vous de ça comme type liturgique. C'est de là que nous apprenons à nous prosterner nous-mêmes quand nous faisons, je voyais en partie la liturgie, le prêtre est sorti avec les choses saintes au sein, tout le monde s'est jeté à terre. Bah oui, spontanément, qu'est-ce que vous voulez, le roi des rois qui apparaît, bah tu te prosternes, il n'y a pas besoin de regarder dans le livre si c'est à ce moment-là qu'il faut se prosterner, vous voyez. Il y a quand même quelque chose d'absolument vivant dans le culte. Bon, autre événement, mais je vais un peu plus vite maintenant, si vous voulez, la présentation au 40e jour du Christ. C'est un événement, on sait que c'était prescrit par la loi, etc. C'est un événement, et vous savez très bien que nous le retrouvons dans nos propres pratiques liturgiques, de présenter les enfants le 40e jour après la naissance. Nous le refaisons. Donc il y a bien une réitération d'un événement de l'Évangile. La venue au temple à 12 ans. Si cet événement-là aussi, c'est un événement qu'on doit pouvoir retrouver dans le culte. Bien sûr, le baptême en Saint Matthieu, en Saint Luc. L'événement du baptême du Christ, mais ça devient le type le type de toute vie chrétienne. Mais là aussi, nous avons une célébration, nous avons la parole, nous avons les signes, nous avons la présence des anges, nous avons les gestes rituels du baptême, nous avons l'oblation des éléments de la création avec l'eau, la terre et la lumière. Mais bon, on pourrait passer un petit peu de temps, vous voyez, à montrer que le baptême est une célébration. Enfin, le baptême du Christ au Jourdain est un moment liturgique. Hein. Et d'autant plus que, je me posais la question tout à l'heure, en réalité, il devait y avoir la présence d'un certain peuple, hein, puisque ce baptême a été accompli par Saint Jean-Baptiste au Jourdain, et qu'on nous dit, dans les chapitres qui précèdent, que beaucoup de Juifs venaient de Jérusalem se faire baptiser à cet endroit-là. Donc il y avait du monde. Hein. Évidemment, ce n'est pas une petite messe hein, célébrée en privé, en catimini, dans un coin. Oui, c'est un événement liturgique où le peuple a été là. Et les gens ont dû dire « Oh, ah !» Ils ont dû pousser des cris probablement de stupéfaction, d'admiration. Ils ont entendu un bruit comme un tonnerre. Vous voyez, il faut que la liturgie soit un moment de stupéfaction. Moi, ce qui me fait souffrir beaucoup, c'est qu'elle ne le soit pas. C'est terrible, si vous voulez. Surtout dans les habitudes que nous prenons. Bien sûr, nous sommes des bons chrétiens. Moi, le premier, je vais à l'église tous les dimanches, je vais célébrer le faire le prêtre, comme me disent les enfants. Ce qui fait le prêtre aujourd'hui, oui, je veux faire le prêtre, mais bon, mais ça n'a aucun rapport, si vous voulez, avec cette grande stupéfaction, cet effroi religieux que les gens ont vécu dans l'évangile quand ça se passait. C'est pour ça que je vous dis que c'est tellement difficile de restituer le réel. C'est pour ça qu'effectivement on comprend que ça se transforme vite en passé, parce que nous perdons la grâce d'être stupéfaits, nous perdons la grâce d'être absolument renversés. Quand vous pensez que Pierre, Jacques et Jean, au moment de la transfiguration, qui est aussi un moment liturgique assez exceptionnel, ils sont tombés à la renverse, les garçons. Donc est-ce que la liturgie, est-ce que l'événement qui se transforme en liturgie ne pourrait pas rester aussi un moment de stupéfaction? Il y a dans certaines églises orthodoxes, je crois que chez les Coptes justement, ou chez les Abyssiniens ou les Érythréens, enfin, donc les orthodoxes, c'est un peu archaïque comme ça, extraordinaire, il y a un moment, après l'épiclèse, l'invocation du Saint-Esprit, où les prêtres qui sont à l'autel se reculent, se précipitent en arrière, s'éloignent avec précipitation de l'autel. Ça se passe derrière le voile, ils ont gardé le voile qui vient du temple juif, ils se reculent avec précipitation, ils tombent pas à la renverse, mais ils ont ce mouvement de recul, alors qui chez eux, si vous voulez, c'est ritualisé, mais c'est-à-dire qu'ils ont gardé quand même la conscience que ce moment-là de la descente du Saint-Esprit sur les dons est un moment absolument stupéfiant, absolument, oui, renversant. Bon, d'autres exemples, j'avance quand même. Tous ces exemples de guérison qu'on a, qui sont très très fréquents, surtout chez Saint Matthieu et Saint Marc, tous ces exemples de guérison, très souvent, se terminent par une louange. Un grand sauveur, elle nous a été donnée. Dieu a été grand avec son peuple. Louange à Dieu. C'est-à-dire qu'on voit très bien la transformation d'un événement de guérison en action liturgique. C'est-à-dire que ça se transforme, ah oui, en acclamation, en prière spontanée. Mais c'est tout à fait spontané. Les gens poussent des cris en disant « Mais c'est extraordinaire ce qui se passe là !» Et l'Évangile nous le dit. Les gens ont dit « Ah, un grand... je sais pas comment dire, Dieu a magnifié... » Voilà, Dieu a magnifié. Généralement, c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit la naissance de la liturgie. C'est passionnant ça. Parce que les gens de l'époque étaient archi-cultivés du peuple biblique. Ils savaient ni lire ni écrire, si vous voulez. Ils écoutaient par cœur les psaumes et tout ça. Quand ils poussent des cris, quand ils improvisent une prière, ils l'improvisent en citant un psaume. Donc notre liturgie, elle est née aussi de ça, si vous voulez. Du fait que on dit « Béni soit le Seigneur notre Dieu », quand on a envie de dire quelque chose, et sans même se rendre compte qu'on est en train de citer un psaume. On dit « Oh Dieu, viens à mon aide » quand on s'est pincé les doigts dans une porte, sans savoir qu'on est en train de citer un psaume. C'est-à-dire qu'il y a cette spontanéité de la citation de la parole de Dieu continuellement, parce que ça fait partie de la culture. C'est le moment où les pensées divines sont devenues les pensées des hommes, justement. Mais la liturgie, elle est née de cette façon-là. Oui, elle n'est pas née comme des rites composés à l'avance, elle est née de l'événement, de l'expérience, du vécu des gens. Bon, en Saint-Luc, par exemple, c'est Luc 18, après l'appel à la guérison, il y a justement un exemple de louange, Luc 18, 43. L'exemple du mariage. On sait très bien que c'est le seul cas qu'on ait dans l'évangile, c'est dans le chapitre 2 de Saint Jean, la présence du Christ à Cana de Galilée. Je ne vais pas vous parler de ça pendant 3 heures. C'est très bien que c'est de cela que naît notre propre célébration du couronnement. Bien sûr, donc il y a un événement qui était déjà un événement liturgique, avec une transformation de l'eau, avec l'intercession de la Mère de Dieu vers le Christ, avec la Seigneurie du Christ qui dit « faites ceci, faites cela ». C'est un moment liturgique extraordinaire. Dans l'Évangile lui-même, avant de devenir un moment liturgique, un sacrement de l'Église, c'est un moment liturgique par nature, si je peux dire. Par nature, et c'est quelque chose qui a été concélébré, on voit très bien les différents partenaires de la concélébration, c'est intéressant. Le maître du banquet, celui qui sert, le Christ, la Mère de Dieu, les époux, il y a toute une série de personnes qui composent l'assemblée liturgique de cet événement-là. Alors, bien sûr, la multiplication des pains, la transfiguration, j'en ai parlé, l'entrée à Jérusalem, ça c'est intéressant, voilà un événement qui est un événement historique, et qui a donné naissance justement à des passages liturgiques, non seulement dans le dimanche des rameaux, évidemment, où on revit, alors ça c'est un exemple typique de reviviscence de l'évangile, mais même dans la liturgie de chaque dimanche, ça va être très bien qu'on retrouve le Hosanna, qui vient de cet événement-là, si vous voulez. Donc c'est très très important, c'est le fait que la liturgie intègre l'histoire, ou plutôt, on va dire autrement, ce qu'on appelle l'histoire, eh bien c'est la permanence du réel à travers le culte. C'est la liturgie qui sanctionne la réalité historique de l'évangile. Puisque, dans chaque célébration, elle nous redit cela au présent. Elle remet l'histoire au présent. Elle réalise l'histoire de l'histoire. L'historicité de l'histoire. Ça, c'est très très intéressant. Ça, si on réfléchit sur la théologie du temps et la théologie de l'histoire dans la liturgie, ceci est absolument, ce qui est historique, c'est pas le passé, c'est le présent. Vous voyez? L'entrée à Jérusalem, donc bien sûr, le festin nuptial aussi, on peut le commenter, l'avènement du Fils de l'homme, qu'on retrouve dans beaucoup de gestes liturgiques qui consistent à montrer l'Évangile solennellement. Et je vous signale que là, Saint Père Schmemann qui a commenté ça, l'entrée du Christ à Jérusalem, le Père Schmemann dit qu'elle donne tout son sens aux différents rites d'entrée, chaque fois que l'Évangile, c'est-à-dire le Christ, entre dans le sanctuaire. Et c'est pas un remake, simplement, mais c'est une actualisation de l'entrée du Christ chez lui, dans sa Jérusalem, du Seigneur, ou de l'entrée du Christ dans son temple, ou de l'entrée de Dieu dans son royaume. Vous voyez, on actualise quelque chose. C'est pas une représentation, vous voyez, c'est une actualisation, c'est un stage différent. Alors, bien sûr, le repas pascal, bien sûr. L'ensevelissement, c'est intéressant, l'ensevelissement du Christ qui est donné, qui sert de type aux funérailles chrétiennes. Pourquoi, il y a une question qui vous a posée, pourquoi vous les orthodoxes, vous êtes toujours contre tout? Vous exagérez, mais si on n'est pas contre tout, on est plutôt pour beaucoup de choses. Enfin, je veux bien, si vous êtes contre ceci, vous êtes contre cela, vous êtes contre l'incinération. Mon cher monsieur, c'est pas très compliqué, parce que le Christ n'a pas été incinéré, c'est tout. C'est tout. C'est la raison principale. Parce que les funérailles chrétiennes sont organisées sur les types des funérailles du Christ. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, le Christ n'a pas été incinéré, donc on n'incinère pas. Parce qu'on refait, on réitère justement dans les funérailles de chaque chrétien, on réitère les funérailles du Christ. On tient compte des 3 jours, etc. Voilà. Ensuite, ça c'est donc pour ce qui est des faits rapportés, on pourrait y revenir bien sûr. Ensuite, les hymnes et prières, pour quand même utiliser mon temps de parole, j'en fais un peu. Les hymnes et les prières transmises par les écrits néo-testamentaires, il y en a des quantités, donc on retrouve dans la liturgie. Alors, ici je peux vous dire que c'est surtout chez Saint-Luc qu'on les trouve. Des 4, ma petite expérience récente, des 4 versions du Saint-Évangile, l'Évangile de Saint-Luc est le plus, au fond, le plus liturgique au sens où c'est lui qui donne le plus d'indications sur les pratiques liturgiques et tous les textes liturgiques. Par exemple, alors qu'est-ce qu'on a comme texte? Vous savez très bien, je vais vite là-dessus, mais c'est important que ça vient quand même de l'Évangile. Les béatitudes, je suis désolé, ça vient quand même de l'Évangile. C'est un discours du Christ, c'est même pas une hymne au départ, c'était l'enseignement du Christ à ses apôtres Et on le trouve deux fois, hein, une fois en Saint Matthieu, une fois en Saint Luc, donc c'est très très important, les deux évangélistes en ce sens sont rappelés, c'est le Christ qui prêche, les bénédictions, c'est le Christ qui prêche, c'est la raison pour laquelle il n'est pas chanté par le peuple. C'est très intéressant ça, parce que sentimentalement, tout le monde a envie de chanter les béatitudes, ça fait plaisir, on se fait plaisir, on chante tout, mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, parce que les béatitudes, c'est quand le Christ prêche. Donc moi, en tant que peuple, j'écoute le Christ prêcher. C'est tout à fait différent. Et à ce moment-là, les prêtres qui sont à l'autel n'ont pas à chanter les béatitudes non plus, que je le dis à mes chers collègues, j'ai beaucoup des collègues prêtres diacres à qui ça fait plaisir de chanter tout, alors que ce n'est pas du tout à eux de chanter, c'est au cœur. Bon. Donc je leur dis ça très gentiment, avec tout le respect que j'ai pour eux, ils sont meilleurs que moi. Mais voilà, un cas typique d'une pratique liturgique précise, correspondant à la nature même du texte utilisé, si vous voulez, et qui vient de l'Évangile. Bah, vous savez très bien que la prière du Notre Père vient de l'Évangile, mais je n'y reviens pas. Le Hosanna, on vient d'en parler. Le Magnificat, bien sûr, l'hymne de la Mère de Dieu, vous savez très bien qu'il est dans Saint Luc au chapitre 1. Le Cantique de Zacharie, qu'on dit à l'office de matine, comme le Magnificat d'ailleurs, est dans Saint Luc chapitre 1. Le Gloria, ce qu'on appelle petite doxologie ou grande doxologie, mais elle vient aussi de l'Évangile, elle vient de l'Évangile de Nativité, ça va être très bien. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes, bah, c'est le chant angélique de la Nativité. Donc il y a bien une origine évangélique de nos pratiques liturgiques. Ça vient de l'Évangile. C'est bien l'Évangile qui est en train de se refaire, se réactualiser chaque fois que nous chantons ça. Mais encore faudrait-il que nous en ayons conscience. D'autres choses. Le cantique de Siméon qu'on chante au vers, enfin dans l'office byzantin on chante au vers, dans l'office occidental il est chanté accompli. Bon, peu importe, il est chanté à un moment où on pense à la mort. Parce que les vers accomplis, bah, c'est des moments où la nuit est venue, et les anciens, et nous aussi, quand tu vas t'endormir, tu penses à la mort. Donc on chante le cantique de Siméon, bah, il vient de Luc chapitre 2 aussi, bien entendu, tout le monde sait ça, mais je le rappelle, vous allez me dire, je dis des choses que tout le monde sait, j'enfonce des portes ouvertes. Bah, oui, mais enfonçons un peu des portes ouvertes, parce que moi, ce que je remarque, c'est qu'on oublie ces choses-là. Oui. Donc je suis peut-être là pour les rappeler. Et puis, par exemple, l'importance de la confession de la foi dans la liturgie. J'entends quelquefois dire, oh, mais le credo, ça t'est rajouté plus tard, à une époque, machin. Je sais très bien ça. Je sais très bien qu'on a le credo de Nicée Constantinople a été introduit dans la liturgie à une certaine époque parce qu'il y avait une nécessité. Mais il n'y a pas que lui. Dans la liturgie, il y a deux fois le credo. Trois fois même le credo. Le credo de Nicée Constantinople, qu'on doit dire, était très important. Le Fils unique et Verbe de Dieu, qu'on chante après la troisième bénédictine, qui est encore un credo, le signal, et la prière qu'on dit avant la communion, je crois Seigneur et je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, encore un credo. Donc il y a au moins trois fois dans la liturgie, un moment où on fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on est en train de refaire ce que, dans l'Évangile, a fait ou fait, restons au présent, l'apôtre Pierre. Ça c'est très très beau ça, oui. Et qu'on retrouve comme base de la célébration liturgique la foi de l'apôtre Pierre, qui est par excellence la personne qui confesse la foi. Vous savez, c'est à lui que le Christ a dit, à cause de ce que tu viens de confesser là, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. C'est-à-dire que le Christ a donné cette confession de foi de l'apôtre Pierre comme base de toute la communauté chrétienne à laquelle il donnait vie par sa propre vie. Donc ça c'est très très beau, ça, vous voyez, c'est très très beau. Et c'est pour ça aussi que le credo est au singulier. Par exemple, il faut savoir que dans l'histoire du credo de Nicée, la première version c'était nous croyons en un seul Dieu, Père, Fils. Très très bien. Et puis les pères à deuxième concile œcuménique, c'est-à-dire au concile de Constantinople numéro 1, ils ont remplacé nous par je. C'est qu'ils se sont rapprochés de la version de l'Évangile où les personnes parlent singulier. Que ce soit l'apôtre Pierre, que ce soit Marthe, la sœur de Marie dans l'Évangile de la résurrection de Lazare, que ce soit la Samaritaine, toutes ces personnes-là, elles disent « je ». Eh bien, donc, la pratique liturgique s'est rapprochée de l'Évangile. Ça, c'est très intéressant. Bon, bien sûr, le triple sanctus, vous savez ou vous ne savez pas, mais je vous le dis à ce moment-là, c'est dans l'Apocalypse. Alors qu'il y a beaucoup d'éléments de la liturgie qui viennent de l'Apocalypse, y compris dans le rite byzantin, parce qu'on dit quelquefois que c'est la caractéristique de la liturgie occidentale, gallo-romaine en particulier, d'emprunter à l'Apocalypse. C'est assez vrai, d'une certaine façon. N'empêche que, il y a beaucoup d'emprunts de l'Apocalypse dans la liturgie universelle, y compris dans la liturgie syrienne, syro-palestinienne, qu'on appelle la liturgie byzantine, mais pas plus byzantine que vous et moi, si vous voulez, elle est syro-palestinienne. Cette liturgie du Moyen-Orient a beaucoup d'éléments qui viennent de l'Apocalypse. Donc ça, le triple sanctus, la doxologie, on dit tout le temps gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. D'où est-ce que ça vient ça? Eh bien de l'Apocalypse 7, versets 10 et 12. Je parlais de l'encens qu'on n'a pas utilisé dans la chambre d'hôpital l'autre jour. D'où est-ce que ça vient l'encens? C'est de l'Apocalypse, chapitre 8, versets 2, 6. La notion même de liturgie, d'ailleurs, ça vient de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 3, quand il est dit « Les serviteurs rendent un culte ». C'est ça, être chrétien, c'est rendre un culte, être les serviteurs qui rendent un culte. Donc voilà, oui, les hymnes et les prières, on peut en trouver d'autres. Ensuite, je termine là-dessus, ce que j'appelle les injonctions. Qu'est-ce qu'une injonction? C'est une consigne. Faites ceci ou ne faites pas. Eh bien, les injonctions, l'un des candidats, ce sont toutes les injonctions qui viennent de l'Évangile aussi. J'ai dit ça l'autre jour, c'est un baptême dimanche dernier, c'est un magnifique baptême d'adultes dans la liturgie, c'est vraiment le ciel sur la terre. Et j'ai dit aux personnes qui étaient là, si vous avez bien entendu, que nous baptisons, non pas parce que nous avons envie de baptiser, parce que ça nous fait plaisir de faire des belles fêtes et tout, mais parce que le Christ nous dit de le faire, c'est tout. Dans le baptême, chapitre 28, le Christ dit, allez, baptisez, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Donc il a dit, on le fait. C'est-à-dire qu'il y a une origine évangélique dans une pratique chrétienne. L'absolution, par exemple, qui est contestée par certains chrétiens, c'est de se demander si les gens n'ont jamais lu l'évangile de leur vie, c'est même extraordinaire. Le Christ a expressément dit, enjoint ses disciples et apôtres de pardonner les péchés en son nom. Mais comment est-ce qu'on peut contester des choses comme ça? Comment est-ce qu'on peut organiser une communauté chrétienne sans forme d'absolution apostolique? Ça laisse rêveur. Alors, donc, pour citer simplement quelques passages, Matthieu 16, 19, Marc 2, 5, Luc 7, 48 et Jean 20, 23, reprenez ces textes-là, et voir à quel point l'injonction est forte. Ça veut dire qu'il y a dans cette pratique liturgique, sacramentelle, si importante pour notre Église, qui est l'absolution des péchés, il y a une base évangélique, il y a une expérience évangélique, il y a un vécu évangélique, il y a un commandement évangélique objectif. Vous voyez. Et puis bien, par exemple, ce qui concerne la veille, veiller, le Christ nous le dit, chapitre Matthieu 24, etc. Et puis bien sûr l'Eucharistie, mais j'ose à peine en parler, mais c'est tellement évident. Faites ceci en mémoire de moi, je ne sais pas. Comment dire autrement que nous accomplissons, nous sommes dans le faire, je l'ai dit tout à l'heure. Expliquer aux gens que je suis ressuscité, faites des efforts pour être un peu crédible, un peu compréhensible, faites des études, allez en fac un peu pour apprendre comment on parle des choses, faites une navigation, une philosophie. Non, et faites. La constitution de l'assemblée liturgique en Luc 24, 53, cet événement d'une assemblée qui se constitue pour prier au nom du Christ. Et puis bien sûr, l'exemple de la première église dans les actes des apôtres, mais bien sûr. Et bien sûr, on voit très bien que, il faudrait en avoir conscience quand nous venons le dimanche matin à l'église, à la cathédrale ou ailleurs. Je ne sais pas si nous avons toujours conscience de ça, que nous sommes en train de refaire le même comportement, les mêmes gestes, le même déplacement, la même consécration du temps, la même consécration de nous-mêmes que ces premiers baptisés de l'Église ancienne. Ce sont des gestes très très simples. Venir à l'Église pour célébrer, se réunir au nom du Christ, c'est archi simple. Les chrétiens ont toujours fait ça. Et puis, ce n'est pas que dans les actes des apôtres, j'ai mis bien sûr acte 2, 42-46, acte 13, verset 2, acte 20, chapitre 7, ce sont des passages fondamentaux pour l'histoire du culte chrétien, mais aussi l'Apocalypse encore, l'Apocalypse, chapitre 7, verset 15. Je regrette de ne pas avoir le temps de vous lire les textes, bien sûr. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous vient également des écrits apostoliques, donc des premiers siècles de la communauté des baptisés, il nous vient également, et ça vient vraiment du judaïsme, très profondément, l'injonction concernant le culte intérieur. Et ça, c'est très important, parce que là, au fond, je vous ai parlé surtout bon, du vécu communautaire, du vécu liturgique, rituel, je vois les gestes, et... mais il y a un vécu intérieur, hein, et une consécration de soi, qui vient en fait du psaume 50, hein, c'est-à-dire du judaïsme, le meilleur du judaïsme. Le meilleur du judaïsme a été, pas l'idée, si vous voulez, mais l'expérience de l'intériorisation du sacrifice accompli dans le temple. Quand David dit dans son psaume, un cœur humilié et brisé, Dieu ne le rejettera pas, un sacrifice, le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur humilié. Alors, ça, cette oblation du cœur, c'est-à-dire l'intériorisation du culte, ah, c'est tout à fait, c'est profondément juif, ça. Et c'est repris dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 8, quand il dit, vouons à Dieu un culte de crainte et de respect. C'est-à-dire qu'il donne les dispositions intérieures pour la célébration. Bon, et après ça, la célébration elle-même, dans l'épître, chez Saint Paul parle beaucoup de ça, du culte, j'aimerais tellement les lire, ces textes-là. Je renvoie quand même à la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 11, 24, où il rapporte la même chose que l'évangile. Et moi, ce que j'ai appris, les enfants, c'est ça. C'est que le Christ, à tel jour, il s'est réuni, il a pris du pain, il a pris du vin, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on a l'événement lui-même, l'événement événementiel, si je peux dire, dans l'évangile, et on a l'événement rapporté par saint Paul. Ça, c'est très intéressant, ça. Et c'est la conjonction, si vous voulez, entre l'événement événementiel, l'événement vécu au moment grand thème, et l'événement rapporté, c'est ça qui a servi, si vous voulez, à la constitution de l'expérience liturgique chrétienne. Bon, et puis, le gestuel, l'élévation des mains, l'imposition des mains, enfin, on retrouverait beaucoup. Donc, pour conclure, je suis arrivé à peu près, mais un peu trop rapidement, pardon, à ce que je voulais dire. Donc, ce que je voulais dire pour nous, à notre niveau de propédétique, ce qu'on a vraiment besoin de savoir et de garder dans sa conscience, c'est l'origine basique, existentielle, évangélique, vécue, simple, communautaire, villageoise. Capharnaüm, c'est un village, un petit bled minuscule. Jérusalem, c'est une grande ville. Enfin, bon, c'est pas la grande ville que c'est maintenant. Toutes ces villes dont il est question, même géographiquement, on voit où ça se passe. Prenez une carte de la Judée, vous voyez très bien où ceci est né. Eh bien, notre vie liturgique, elle doit se retrouver toujours à la rendez-vous, je peux dire, à la rendez-vous avec le moment de sa propre naissance. Et il ne faut pas s'éloigner trop de la source, il faut essayer de relire, c'est pour ça qu'il faut relire l'évangile tout le temps. Pour toujours, toujours revenir au lieu. Vous savez, c'est comme les gens qui fêtent leur anniversaire de mariage, que je trouve une très bonne idée, et ils retournent là où ils ont été, là où ils se sont rencontrés la première fois, le premier bisou, je sais pas quoi, vraiment. Si vous voulez. Et c'est très important, ça, le retour aux sources, le retour à l'initial même du réel. Hein. C'est tellement, tellement important. C'est pour ça qu'on fait des pèlerinages aussi. C'est important d'aller à Jérusalem, d'aller sur les lieux saints, d'aller à Capharnaüm, d'aller à Cana, d'aller à... On a des amis qui ont été en Jérusalem, ils sont revenus, ils avaient dans une bouteille, ils ont rapporté de l'eau du Jourdain. Mais c'est extraordinaire, moi je trouve ça extraordinaire. Et vous savez ça, que quand on a de l'eau du Jourdain, on ne bénit pas l'eau pour le baptême. Si on a quelqu'un à baptiser, bon, on n'est pas obligé, hein, mais on peut... ne pas dire les grandes prières superbes de consécration de l'eau, et simplement verser l'eau du Jourdain dans le baptistère. Et ça, c'est très important qu'on puisse faire ça, parce que justement, on relie tout, on relie l'acte liturgique, l'acte sacramental, on le relie à son origine matérielle, cosmique, géographique, naturelle. C'est quand même le même fleuve. Alors, on me dit, oui, mais du temps, l'eau a tellement coulé, c'est pas la même eau. On peut toujours discuter, hein, d'abord moi je répondrai, comme le Jourdain a remonté vers sa source, ça modifie un petit peu aussi les paramètres, donc c'est, quelque part c'est quand même le même fleuve, hein. C'est quand même le même fleuve, le fleuve où le Christ s'est immergé et a purifié toute la mémoire d'Israël. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de votre indulgence et de votre bienveillance. Et de votre pardon, puisqu'on va vers le dimanche du pardon. Et j'espère que c'est quand même utile, un peu tout ça.
Merci.
Voilà. Merci.